On sait que Pasolini est une personnalité qui a déconcerté à plusieurs reprises à la fois l'opinion publique italienne par sa vie jugée scandaleuse, a déconcerté souvent ses amis écrivains, ses compagnons intellectuels par un positionnement idéologique qu'on pourrait définir oscillant, hésitant, puisqu'il avait la prérogative Pasolini d'être à la fois attaqué sur sa gauche et sur sa droite, c'est des choses qu'on sait, donc tantôt traité de réactionnaire, tantôt traité de subversif, bon, et je pense qu'il jouissait de ce positionnement fluctuant, et il est aussi déconcertant, je dirais, là j'approche du terrain qui est plus le nôtre, il est déconcertant en partie pour ce que j'appellerais ici la critique institutionnelle. La critique institutionnelle, ce sont les lecteurs professionnels, les essayistes, les universitaires, etc., qui ont, pendant longtemps, ça on l'oublie aujourd'hui parce qu'il y a une sorte d'unanimité critique autour de Pasolini, mais ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Quand on travaille sur la durée, on s'aperçoit que souvent revient sous la plume des critiques à propos de Pasolini, comme une sorte de reproche, d'ailleurs, sa curiosité multiforme, on pourrait dire, et le fait que, justement, il va travailler à partir de moyens d'expression, de vecteurs de communication qui sont extrêmement différents. On en a déjà abordé certains, du théâtre, au pamphlet, au roman, au cinéma, etc. Il y a une belle formule qui résume un peu cet aspect qu'on trouve dans le volume Meridiani consacré au texte, au cinéma de Pasolini, une formule de Mario Martone, qui est lui-même metteur en scène de théâtre et cinéaste, alors je traduis, hein, toutes les citations seront traduites, qui résume un peu cette perplexité pendant longtemps de la critique vis-à-vis de Pasolini. Je cite Martone, Pasolini n'est pas un poète, n'est pas un cinéaste, n'est pas un auteur de théâtre, n'est pas un romancier. Qu'est-ce qui reste? Donc la question que je me suis posée, et d'ailleurs Pasolini lui-même mettait en avant souvent, peut-être c'était une coquetterie d'intellectuel, mais souvent il mettait en avant aussi cette idée qu'il était d'abord poète. Ça c'est dans sa hiérarchie à lui, c'est un peu comme Bassani, c'est celui qui est d'abord un poète, avant d'être un romancier. Je ne cite pas pour gagner du temps, mais toute une série de textes dans lesquels Pasolini se dénie, encore une fois, cette fonction de romancier. Donc, est-il un traducteur? Voilà, j'arrive enfin à ça, la question. Donc, s'il n'est pas dans la suite de cette prétérition, cette liste de prétéritions, la question qui se pose est-il un traducteur? Déjà, on peut dire que oui, techniquement, il est un traducteur, puisqu'il a traduit. Bon, ça ne suffira pas comme explication, mais il a traduit, on peut le noter, essentiellement du théâtre. Lorsque Pasolini traduit, presque exclusivement, il traduit du théâtre. On aurait pu s'attendre de la part de Pasolini à des textes entiers de traduction de poètes étrangers, par exemple. Ce n'est pas vraiment le cas. Donc c'est surtout le théâtre qui l'intéresse. Ça, c'est une première chose. Autre chose, lorsqu'il traduit du théâtre, je réduis ma remarque, lorsqu'il traduit du théâtre, il traduit exclusivement du théâtre antique. On a vu ce matin, je ne redonne pas les titres, on les connaît, donc du côté du théâtre latin ou du côté du théâtre grec. Pourquoi va-t-il décider, j'arrive à mon propos, donc 1961, et moi je vais travailler plutôt sur ce que j'appellerais une contextualisation endogène de l'œuvre de Pasolini. C'est moi ce qui va m'intéresser, ça a été fait un peu ce matin aussi, hein. Ces sortes d'auto-référence possible, d'auto-citation d'une partie à l'autre du texte des œuvres de Pasolini. Ma thèse, mon hypothèse serait que le recours au dialecte, et après on va discuter de ça, mais le recours au dialecte, donc romanesco, dans Il Vantone, et là je me limite au Vantone, est une façon pour Pasolini, d'une part, de respecter, de rendre à sa façon l'écart temporel qui nécessairement existe entre, ça a été dit ce matin aussi, entre la civilisation de Plaute et la sienne. Bon, ce n'est pas seulement 2000 ans, un peu plus, qui les séparent. Vous avez ce matin insisté sur cet aspect-là. C'est aussi, évidemment, un rapport au genre théâtral. Ça, je ne développe pas, c'est une évidence. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée que je voudrais essayer de démontrer aujourd'hui par quelques exemples, c'est que, et là je contextualise, c'est que lorsque Pasolini accepte, n'oublions jamais, c'est une œuvre de commande. Ça, c'est important. Parce que normalement, pour nous, une œuvre de commande, ça veut dire une limitation de la possibilité d'exercer son imaginaire dans une approche simple. œuvre de commande, donc pour cette traduction en romanesque. Pourquoi ce choix du romanesque en 61? Alors, ma thèse est la suivante, mon hypothèse est la suivante, c'est qu'au même moment, et donc sa traduction va accompagner cette phase-là, au même moment s'amorce chez Pasolini, donc dans une lecture interne à l'œuvre de Pasolini, s'amorce chez Pasolini une évolution drastique, à la fois dans son écriture et dans son propos de poète civil, pour reprendre ces termes italiens classiques. Ça se traduit comment ? Ça se traduit par un lent abandon, et ça c'est dès 61, et de façon définitive à partir de 63, c'est-à-dire au moment où il clôt ce que j'appellerais justement son cycle romanesque. Son cycle romanesque, il dure de 50, pour aller vite, son arrivée à Rome, en gros 49-50, jusqu'à peut-être son dernier film, La Ricotte ou Mamma Rome. Voilà, on est là dans cette phase, une dizaine d'années si vous voulez. Il clôt cette période parce qu'il ne croit plus à la vitalité du sous-prolétariat romain. C'est-à-dire que cette mythologie du sous-prolétariat romain ne résiste pas pour Pasolini à ce moment-là, et c'est des témoignages, disons, personnels d'amis de Pasolini, ses propres lettres de cette période, montrent qu'il traverse même une crise, qu'on définirait aujourd'hui une dépression. Pourquoi ? Parce que c'est en train de lui échapper, cette vision-là, de sa vision-là du monde sous-prolétaire romain, qui est l'équivalent, pour aller très vite, on parlait ce matin de contamination, qui est à ses yeux l'équivalent de la plèbe romaine, si vous voulez. Donc là, il y a un lien transversal qui est possible. Ça va se traduire comment chez Pasolini ? Ça va se traduire par l'abandon non seulement d'une thématique, mais d'une langue. Ce qui est logique, parce que cette langue, le romanesque, illustre cette thématique. Mais s'il renonce au romanesque, il ne renonce pas encore totalement à cette utopie d'une sorte de virginité, d'une sorte de pureté d'un peuple. Pasolini ne définit jamais le mot peuple. Il définit le sous-prolétariat, ensemble de personnes dépourvues de classe sociale. Ça, il le définit. Il ne définit pas le mot peuple. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va aller la chercher ailleurs. Il va aller la chercher dans un sud mythifié qui n'est plus Rome, ce qui était Rome au début pour lui, et qui va être Naples, Gennariello, qui va être l'Inde, qui va être l'Afrique, qui va être le début de ses voyages des années 60. Et cet éloignement d'une sorte d'engagement civil, au moins dans la fiction, parce que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il perd d'un côté dans la fiction, il le récupère dans son œuvre d'essayiste, de polémiste, de journaliste, où là, oui, il reste attaché à la contemporanéité de l'Italie des années 60, mais plus dans sa fiction. C'est-à-dire, il a besoin d'un filtre. Sa fiction va maintenant à partir de... Et je dirais que d'une certaine façon, sa traduction de Il Vantone, pour prendre une métaphore théâtrale qui convient, il ferme le rideau, ou disons, il abaisse le rideau de ce rapport-là à la contemporanéité romaine traduite par la langue romanesque. Donc, il déplace sa recherche du mythe. Il ne l'annihile pas, il ne la supprime pas, il la déplace. Et il suffit de comparer, ce matin on travaillait sur les genres justement, il suffit de comparer Il Vantone et encore jusqu'à La Ricotte avec son théâtre qui est le contraire même de ces comédies burlesques, enfin là on travaillera sur les adjectifs, mais que propose Pasolini et dans son cinéma. Alors, il y a un fond de tragédie, mais il y a aussi une forme plus légère qui est la forme du comique pasolinien. Il abandonne, pensons à son théâtre, ses tragédies, ses drames de la seconde moitié des années 60, il abandonne ça, et je dis il abandonne ça définitivement. C'est-à-dire que pour moi, il va, alors évidemment, ça m'arrange dans ma présentation, mais quand même, je pense que scientifiquement, ça peut se justifier, Il Vantone a cette fonction transitoire, à cette fonction de passage à une autre période de sa réflexion, à un autre rapport au monde. Alors, vous connaissez, là, très vite, les conditions précises de naissance de ce projet. Donc, ça a été dit à plusieurs reprises. Donc, c'est sur une suggestion de Garsman, hein, qui se met à la tâche de cette traduction. Il dit, alors là, encore une fois, est-ce une coquetterie ? Moi, j'ai tendance à croire ce que Pasolini écrit, hein, mais il dit qu'il accomplit ce travail en 3 semaines... semble absolument incroyable. Et il dit qu'il met 3 semaines à traduire Il Vantone et donc à proposer sa version de ce texte. Le texte, donc il fait ça fin 61. La pièce n'est pas immédiatement représentée pour des problèmes à la fois de droit et puis Pasolini surtout n'est pas satisfait des acteurs. Parce qu'évidemment, bien sûr, il faut des acteurs qui maîtrisent le romanesque et ils ne trouvent pas forcément tout de suite. Il faudra attendre 2 ans pour avoir une représentation en 63 complète de la pièce. Donc, retenez ceci de ces premières remarques, œuvre de commande et traduction. Donc, deux moyens, à mon avis, logiquement, pour brider l'imaginaire. C'était ça le point de départ. La traduction, parce qu'on est lié à un texte, et puis œuvre de commande, parce qu'on est aussi lié à un texte par d'autres raisons. Et évidemment, vous devinez où je veux en venir, c'est sûr, c'est que Pasolini va réussir à refaire sien ce travail de commande, cette obligation, d'une certaine façon, à transformer une commande en une obligation, je joue sur les mots, mais en une obligation interne, une obligation qu'il adresse à lui-même, ce qui est beaucoup plus intéressant. Donc, le propos de ma présentation, encore une fois, là, je vous en donne la forme succincte, parce que je vais aussi donner quelques exemples, mais je ne voulais pas trop vous abreuver d'exemples. Mon propos, c'est que cette réappropriation, là, ce terme n'est pas de moi, je l'utilise, il m'intéresse et il m'arrange. Hein, ce terme, j'ai trouvé sous la plume d'un critique qui a travaillé justement sur la version pasolinienne du texte de Plaut. Cette réappropriation fonctionne évidemment sur plusieurs niveaux. Donc, je vais définir ces niveaux, c'est mon plan, si vous voulez, et à chaque fois, j'illustrerai par un ou deux exemples. Déjà, n'oublions pas que, et ça, c'est aussi une idée qu'on a un petit peu abordée, j'espère qu'on creusera dans la discussion, c'est que pour moi, ce qui se rapproche le plus de Plaut, à la fois dans l'art et dans l'esprit, c'est pas le théâtre de Pasolini, c'est le cinéma de Pasolini. Et moi, j'ajoute, c'était le titre au début de mon intervention, et ce sont les récits de Pasolini, les récits romains, les fameux récits romains, ou le cinéma, le cinéma romain, c'est pas son théâtre. Pourtant, on voit tout de suite, même si on n'est pas un spécialiste comme moi de Plaut ou un spécialiste de Pasolini, on voit tout de suite les fils qui relient les deux œuvres et les deux personnages, les deux écrivains. Il y en a un dont on n'a pas encore parlé jusqu'à aujourd'hui, c'est la Beffa. La Beffa, le mauvais tour qu'on joue à un personnage, qui est une tradition littéraire, on parlera de Molière peut-être aussi à ce propos-là. Donc cette Beffa, c'est la Beffa, un thème central des récits romains de Pasolini. D'une façon ou d'une autre, les récits romains de Pasolini évoquent aussi, sur le fond dramatique de la réalité sociale, évoquent aussi la question de la Beffa. La Beffa pourrait être, là je parle sous le contrôle des spécialistes de Plaut, je suis prudent, mais la Beffa pourrait être aussi désignée comme le thème ou un des thèmes centraux de l'œuvre de Plaut sur laquelle on travaille. Bon. Donc il y a ce point commun. N'oublions pas, on en parlait tout à l'heure, que Pasolini a une fascination, un amour débordant pour Boccace. Donc on retrouve, pour nous italianistes, Boccace, c'est l'écrivain par antonomase de la Beffa, enfin l'écrivain du Moyen-Âge par antonomase de la Beffa. Donc il y a ce thème-là qu'on va retrouver. Sont nombreux, j'ai quelques exemples que je passe, nombreux exemples de Beffa dans les textes de Pasolini, les textes de la période romaine de Pasolini. Alors, travaillons par exemple. Une chose dont je crois on n'a pas trop parlé, je lance cette piste sans avoir trop le temps de développer, c'est les coupes, la question des coupes, hein, la question des coupes auxquelles procède Pasolini par rapport au texte de Plaut. Alors, il y a plusieurs logiques derrière les coupes auxquelles procède Pasolini. Il y a déjà le fait que systématiquement, il enlève les didascalies, mais j'ai cru comprendre en lisant les spécialistes que la plupart des didascalies avaient été rajoutées par les traducteurs et ne figurent pas nécessairement, vous me préciserez ça, ne figurent pas nécessairement dans le texte originel. Il les enlève systématiquement. Il enlève les arguments, ce qu'on appelle les arguments dans le texte de Plaut. Il enlève certaines tirades qui, en effet, sur le plan purement dramatique de l'action elle-même, de la vivacité que recherche Pasolini, retard de l'action, c'est toute une série de tirades qui se trouvent souvent chez Plaut en fin de scène et qui ont presque une fonction récapitulative de choses qui ont déjà été dites par les personnages et qui sont reprises dans un monologue plus long d'un des personnages. Donc il enlève ça ou il fusionne, enfin il fait tout un travail de ce type-là. Et il y a un exemple qui est assez amusant, c'est le moment où dans le texte de Plaut, Périplectomène propose une digression pseudo-philosophique sur les rapports enfants-parents, hommes-femmes, etc. Ça, il enlève ou il réduit énormément. Dans le texte de Plaut, c'est une vingtaine de tirades chez Pasolini, c'est réduit en une seule formulation de Palestrion. Man anna mal sordo. Bon, abrège, allons à l'essentiel. Donc, il enlève tout ça. Donc, ça, c'est le type amusant. Il enlève, ça a été dit ce matin parce que c'était compliqué à garder, il enlève tout ce qui concerne les allusions directes à des références politiques, culturelles. Bon, on a déjà donné des exemples. Et il enlève surtout, alors, je ne sais pas si c'est par incompétence ou justement parce qu'en permanence, il vise la représentation scénique, il enlève tous les problèmes d'interprétation que le texte de Plaut pose aux spécialistes de Plaut eux-mêmes. Donc là, tout ce qui est... Il ne tranche pas, il escamote. Bref, pour résumer, aspect des coupes, il simplifie. Ça ne veut pas dire qu'il appauvrit, il simplifie. Ça veut dire qu'il accentue l'énergie du texte originel. C'est ça, sa visée première. Il l'accentue, il veut le rendre plus lisible ou plus audible pour le spectateur romain, d'abord romain de 1961. Et il maintient, quand il maintient des références, il les réactualise, ça a été dit ce matin en partie, il les, je dirais, romanise, aussi bien dans le vocabulaire que dans l'aspect culturel. Donc, la critique a souvent cité l'ajout par, la traduction par Pasolini d'un passage de Plaut qui aboutit sous la plume de Pasolini à la référence fasciste Vincere, sempre vincere, ça, la critique l'a bien montré. Il y a la question essentielle dans la culture latine et qui transparaît dans l'œuvre de Plaut de l'opposition entre esclaves, esclaves affranchis, etc. Il règle ça, Pasolini, à sa façon et en utilisant par exemple la formule très amusante, pas facile à traduire, signor a mezza calzetta. À un moment, on a cette opposition-là. Donc ça veut dire, là, encore une fois, il réactualise, il italianise la référence. La notion même d'esclave, d'ailleurs, ça faudrait développer, mais la notion même d'esclave disparaît pratiquement du texte de Pasolini. La plupart, le plus souvent, quand il y a le mot latin correspondant au mot esclave dans le texte de Plaut, ça devient chez Pasolini, comme par hasard, ragazzo. Eh oui, di vita, j'ai envie d'ajouter derrière, mais ragazzo. L'esclave, c'est le ragazzo. Pas toujours, mais assez souvent. Donc ça, c'est le premier point, les coupes. Deuxième point, ça concerne justement ce que j'appelle la réappropriation linguistique. Il y a un problème de fond. C'est que le latin de Plaut, c'est la langue. Le romanesque de Pasolini, c'est une langue. C'est-à-dire, c'est une variante de la langue qui est l'italien. Il y a déjà ce problème-là, qui est presque, d'une certaine façon, insoluble. C'est-à-dire, là, il y a chez Pasolini ce jeu pour l'oreille du spectateur de l'époque. Ce jeu continue de comparaison entre le roman, et on en a parlé aussi, le romanesque, j'ajoute, de Pasolini. C'est pas forcément le romanesque ad hoc des Romains des années 60. Il y a de temps en temps des petites erreurs, des petites approximations, mais en tout cas, il y a ce jeu de comparaison sous-entendu, implicite, entre ce dialecte présenté comme tel et une langue officielle qui est l'italien. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi le dialecte? C'est la langue de la plèbe. C'est la langue du sous-prolétariat. C'est cette langue qui porte en elle-même cette vivacité que Pasolini veut mettre dans son œuvre en général. Moins dans son théâtre, on l'a vu de la fin des années 60, mais dans son œuvre en général. Cette espèce de ourlangue. Ce matin, je crois que c'est vous, monsieur, qui citiez Contini. On sait, les liens entre Pasolini et Contini sont extrêmement importants. Contini parle, je le cite, « Il conclamato tesoro del dialetto », dit Contini, dans un de ses textes repris par Pasolini. « L'évident trésor du dialecte », s'il fallait traduire. Ben oui, c'est ça. D'une certaine façon, le dialecte, c'est l'os de la langue. C'est une langue intraduisible. C'est le moment où la langue arrive à son état de langue intraduisible. C'est ça qui intéresse Pasolini. Et puis surtout, ça a été évoqué aussi ce matin, le dialecte, c'est ce qui va contre la langue, ce que Pasolini appelle la lingua media, la langue moyenne du théâtre traditionnel, du théâtre dominant dans la société italienne des années 60, du théâtre bourgeois, du théâtre auquel se rend, comme il le dit dans un de ses textes, Pasolini, la dame en fourrure. Hein, donc la dame bourgeoise. C'est contre ce théâtre. À un moment, ça n'a pas été dit non plus. Alors, est-ce une nouvelle coquetterie de Pasolini? Il faut voir ça de plus près, mais à plusieurs reprises, Pasolini exprime sa haine du théâtre. On trouve ces mots sous sa plume. L'odio del théâtre, dit Pasolini. Donc, cette haine du théâtre, c'est la haine d'un certain théâtre, justement, ce théâtre-là. Et le choix du dialecte, d'une vivacité de la mise en scène, de la représentation, en tout cas attendu par Pasolini, va contre cet aspect un petit peu, comment dire, cet aspect figé de la beauté de la langue moyenne. La langue moyenne a une beauté, mais c'est une beauté figée. Il faut revivifier la langue moyenne. Alors, ça passe par toute une série de procédures. Donc, je vous donne le schéma et à chaque fois un exemple, et je conclurai. Je vois trois niveaux de réappropriation dialectale, hein, pour essayer de mettre un peu d'ordre. Il y a la question, mais alors elle est sans intérêt vraiment d'un point de vue d'interprétation, c'est la question de ce qu'on pourrait appeler les phénomènes philologiques classiques, qui sont propres au dialecte du sud de l'Italie. Ouverture vocalique systématique, gémination consonantique, assimilation consonantique régressive, andiamo, andiamo, palatalisation. Bref, toute une série de phénomènes linguistiques que, évidemment, Pasolini utilise, mais ça ne nous dit rien de plus. Plus intéressant, en revanche, autre trait linguistique propre au dialecte du sud italien, l'apocope onomastique, l'abréviation du nom, souvent des noms propres d'ailleurs, enfin des prénoms, je veux dire, ou des noms propres, du nom de famille, des personnages. Chalet, dans sa tête, ce qui lui permet d'ailleurs un beau, de mots, un beau jeu de mots. Chalet rato. Bon, je n'ai pas le temps de développer. Le plus curieux, pour un lecteur habitué à la langue de Plaute, le plus curieux, péripleco, comme ça, accentué, tonique. Bon, voilà, et toute une série d'exemples. Ça contribue à ce que j'appelle l'accélération du rythme. Deuxième aspect, la question du lexique. Alors moi, ce qui m'intéresse, parce que des choses ont été dites, j'ai une intuition, j'ai en partie, disons, résolue. Je suis allé voir le glossariette qui figure dans les éditions complètes de Meridiani de Pasolini, à la fin, mais déjà, ça figurait dans la première édition du roman, de Una vita violente, en 59 ou 60, là, j'ai la date m'échappe. Glossariette, aussi un lexique pour le lecteur non romanesque, qui se trouve confronté à quelques mots dans le texte qu'il pourrait ne pas comprendre. Il se trouve, et ça me semble un chiffre important, que près de 20% des mots qui figurent dans ce glossaire, et on est à peu près à la même époque que le travail sur Plaute, 20% des mots qui figurent dans ce glossariette sont dans son Vantone. Donc cette filiation-là, elle est évidente. Je dirais que Pasolini possède un vocabulaire restreint du romanesque, mais qu'il surexploite. Et qu'il surexploite dans tous les textes ou dans toutes les œuvres romaines, entre guillemets, cinéma, récit, et dans ce cas-là, et dans ce cas unique, théâtre. Il faudrait faire un travail, je propose un travail dans la version écrite, sur le meretrix latin. C'est très amusant de suivre ça, les différentes versions donc du mot prostituée, si vous voulez, que Pasolini propose dans Il Vantone. On a toutes les formes, mais celle, et ce n'est pas un hasard qui domine, parce qu'il a plusieurs mots à sa disposition, mignotte. Et forcément, parce que mignotte, c'est le mot qu'on va retrouver dans toute une série de locutions figées italiennes, à fonction d'interjection, mignotte, etc., qui sont déclinées sous toutes ces formes dans le texte italien. Bon. Donc, il y a ça. On parlait ce matin de la question du titre. Je crois que c'est vous ou quelqu'un posait la question. Pourquoi est-ce que finalement, il vantone, quel est le sens derrière? Non, mais c'est, à mon avis, c'est plus simple que ça. C'est-à-dire, dans un premier temps, Pasolini avait pensé à utiliser le mot lavanar, on le sait, donc un mot plus, disons, dialectal. Et puis, il s'est dit, non, ça, ce mot-là, on ne va pas le comprendre. Donc, il est aussi dans une logique d'équilibre. À la fois, il est fidèle à lui-même et à sa période de romanesque, et en même temps, il pense à la représentation, à une ouverture d'un public potentiel. Donc ça, c'est pour l'aspect lexical. Et puis, il y a toute la question, je dirais, d'une réappropriation qui tend à l'infidélité. Mais une infidélité qui n'est pas, on l'a bien démontré ce matin, la cause d'une ignorance ou d'une méconnaissance du latin. Pas du tout. Qui est une infidélité consciente, assumée, liée, encore une fois, à nourrir son propre univers. C'est ça son obsession, nourrir son propre univers. Et là, il y aurait toute une série d'exemples sur, par exemple, l'accentuation chez Pasolini d'un élément qui est bien présent chez Plaute, c'est la misogynie. La misogynie orientée, évidemment, et je dirais augmentée aussi chez Pasolini, dans la lignée de ce qu'il écrit par ailleurs dans ses textes fictionnels, son cinéma, qui est souvent jugé, à mon avis, à juste titre, misogyne. Alors, donc, c'est toute l'image féminine, il faut voir les images féminines qui propose Pasolini dans son œuvre, elles sont souvent très, très, très noires, et il y a tout le vocabulaire de la souillure associée au féminin, et donc, ça, on va retrouver ça dans Il Vantone. Certes, il part de Plaute, mais si on prend les textes, les passages précis, ce que je n'ai pas le temps de faire, il accentue cette dimension-là. Elle y est, mais il l'accentue. Donc, ça, c'est cet aspect-là. Il y a, sur le plan culturel, justement, tout ce qui concerne ce que j'appellerais donc dans un troisième point la réappropriation culturelle, c'est tout ce qui concerne évidemment, là encore, l'idée même du vantard. Ça, c'est une chose qui m'intéresse parce qu'il y a des vantards dans l'œuvre de Pasolini. C'est les petits délinquants qui, de temps en temps, et c'est pour eux la seule façon qu'ils ont d'exister. C'est-à-dire que la vantardise chez les personnages de Pasolini, c'est un moyen de dominer momentanément l'autre par la parole. Parce que quand on réfléchit, c'est quoi l'avantardisme ? C'est de la parole. Et ce n'est que de la parole. Donc c'est une utilisation rhétorique de la langue qui permet à ces personnages, momentanément, d'avoir le dessus. Mais évidemment, c'est une fanfaronnade pathétique. Parce que c'est une fanfaronnade qui ne débouche jamais sur des effets réels dans leur vie. Leur vie ne change pas. Par la parole de substitution de l'imaginaire, leur vie, momentanément, change. Et donc, on a, j'avais quelques exemples de personnages, je passe, on a juste un, ça a été cité ce matin, le début d'Acatone. Le début d'Acatone, c'est cette scène où le protagoniste, justement, se vante d'être capable de se jeter du pont dans la Nienne, et pas dans le Tibre, évidemment, parce que, justement, là aussi fonctionne le décalage avec l'Antique. Si c'était le Tibre, ça serait trop simple. Non, la Nienne, c'est un petit affluent du Tibre. C'est pas la même chose, c'est pas aussi glorieux. Donc, il y a cette dimension systématique qui touche, j'en arrive à la fin, qui touche surtout la dimension sexuelle. Là, j'aurais voulu développer l'idée que chez Pasolini, cette obsession sexuelle s'inscrit également dans une réappropriation culturelle de ces textes. Il y a la fameuse scène finale du texte de Plaute sur la polysémie du mot témoin, testicule, etc. Le traducteur est obligé de trancher, et évidemment, Pasolini, et tous les traducteurs n'ont pas suivi cette voie-là. Quand on fait un sondage sur les traducteurs officiels de Pasolini, et en français et en italien, ceux que j'ai consultés en tout cas, lui, clairement, choisit la voie de la monosémie sexuelle. Et c'est logique. D'autres traducteurs, on dirait, sont allés plus loin que lui dans cette voie-là. Je ne sais pas s'il a été cité ce matin, Cipriani propose, lui, vraiment des traductions étonnantes de Pasolini. Mais j'en avais des exemples amusants, je les passe. Bref, tout ça pour vous dire que dans ce voyage que j'aurais voulu évidemment approfondir davantage entre deux textes qui renvoient également à deux langues et à deux cultures, je pense, moi, je nuancerai ce qui a été dit un peu ce matin, je pense qu'on peut parler d'affinité élective entre Plaute et Pasolini. À 2000 ans de distance, encore une fois, ces deux auteurs partagent une volonté de faire du théâtre un lieu de la vitalité et un lieu de la transgression. Bon, plus ou moins, peut-être, chez l'un que chez l'autre. Il y a une belle citation, et j'arrive vraiment au bout, une belle citation de Nicola Pice dans mon introduction de l'édition Rusconi. Merci Marc de me l'avoir prêté, ce texte, parce que ça m'a été très utile. Nicola Pice propose une définition du théâtre de Plaute, que je vous lis rapidement. Le réalisme du théâtre de Plaute naît justement de ce regard panoramique porté sur une humanité répartie dans les coins les plus obscurs de Rome, sans que rien ni nul n'échappe à son attention. La rue elle-même, écrit Pitch à propos de Plaute, la rue elle-même devient matière scénique. La vitalité de ce monde, authentiquement populaire, se vérifie au moment où les acteurs montent sur la scène. L'auteur devient puissamment trivial. Je passe d'autre chose. Vous enlevez théâtre de Plaute, vous mettez prose de Pasolini, ça fonctionne. Il n'y a rien à enlever. Ça décrit tout aussi bien la prose de Pasolini, cette citation de Pitch, qu'il écrit sans du tout penser à Pasolini. Donc, pour terminer, je dirais que le choix du dialecte de la part de Pasolini, dans son adaptation traduction de Plaute, obéit à une double exigence. Première exigence, interne à son œuvre, encore une fois, dans une lecture diachronique. Première exigence, mettre un point final, presque final, à sa période romaine et à sa défense d'un sous-prolétariat qu'il n'a plus envie de défendre parce qu'il le dit dans plein de textes, parce que ce sous-prolétariat a amorcé, dès la fin des années 50 à ses yeux, a amorcé ce que j'appellerais moi sa mue anthropologique. Sa mue anthropologique, c'est-à-dire son désir d'intégrer la petite bourgeoisie. C'est le destin du Tommaso de Una vita violente. C'est ça son histoire, une histoire d'intégration. Il faut qu'il est intégré, il n'intéresse plus Pasolini. On passe à autre chose. Ça, c'est la première raison de ce choix dialectal. Deuxième raison, moment clé, ai-je dit, il va de temps, c'est un moment clé dans son parcours. Deuxième raison, ça amorce, son adaptation de Il Vantone, amorce une nouvelle phase de sa création iconographique ou iconologique, c'est-à-dire de son travail aussi bien pour le théâtre que pour le cinéma. C'est quoi cette phase ? C'est la phase où la distinction entre la réalité du mythe et la citation du mythe, qui favorisait et qui, disons, plutôt caractérisait la face qui s'achève. Alors, ça veut dire quoi? Distinction entre du mythe et citation métalinguistique du mythe. Ça veut dire concrètement que dans un film comme La Ricotte, pour prendre cet exemple-là, bah, le personnage qui incarne le Christ, c'est d'abord un Romain. Un Romain, je veux dire, des années 60. Et que, donc, pour le spectateur, il y a en permanence cette double exigence de se reporter à la référence culturelle, le Christ, religieuse, et cette réalité vivante, corporelle, que ce n'est pas le Christ. On ne peut pas savoir ce qu'était le Christ. Mais ce n'est surtout pas ce type de personnage-là qui parle avec cet accent-là. Et ce que je dis de La Ricotte, c'est vrai aussi de Mamaroma Akatol. Son cinéma, après, va supprimer cette dichotomie entre le mythe et la citation du mythe. Personnages qui vont incarner Médée. Alors, il y a le cas d'Oedipe Roy, qui est tangent, parce que c'est Francocci, à nouveau, qui joue Oedipe. Donc là, c'est peut-être une transition. Mais Médée, l'Évangile selon saint Matthieu, il n'y a plus cette dichotomie-là. Alors, en fait, je pense que, et ça a été dit ce matin en passant, le problème, et pour nous, ce n'est pas un problème, c'est une chance, c'est que Pasolini, traducteur, Pasolini, c'est un traducteur écrivain. On a abordé rapidement cette différence ce matin. Alors, ça veut dire quoi, être traducteur et écrivain? Ça veut dire que pour un traducteur écrivain, traduire, c'est continuer à écrire. Traduire, c'est ne pas cesser d'écrire. Je dirais même, traduire, c'est seulement écrire. C'est ça qui compte. Traduire, c'est ne pas traduire en traduisant lorsqu'on est écrivain. Et c'est ce qu'est Pasolini. Et c'est ce qu'est Pasolini depuis presque 20 ans, en 1961. Donc, l'expérience du Vantone, en plus de ce que j'ai dit sur le plan linguistique, a redonné à Pasolini le goût du théâtre. Parce que là, je n'ai pas le temps pour les citations, mais il exprime souvent cette haine du théâtre. A redonné à Pasolini le goût du théâtre, mais d'un autre théâtre. C'est-à-dire, ce qui est amusant, c'est que avec Il Vantone, lorsque je dis avec Il Vantone, je pense contre Il Vantone va s'ouvrir la grande période du théâtre de Pasolini. Mais il fallait d'abord passer par la phase du Vantone, une phase conclusive. Je vous remercie.